Chapitre 2, versets 1 à 10. Citation de l'Écriture. Mais toi, annonce les choses qui conviennent au saint enseignement. Que les vieillards soient sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. De même que les femmes âgées soient, dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leurs maris, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leurs propres maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement de pureté de doctrine, de gravité, de paroles saines qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisants, ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Fin de citation. Dans le deuxième chapitre, nous avons devant nous la piété qui est en accord avec la saine doctrine et le résultat de cette saine doctrine à laquelle l'apôtre fait référence dans les versets 1, 7 et 10. Le comportement dont l'apôtre parle est celui qui convient aux chrétiens dans leurs vies individuelles et privées en relation les uns avec les autres. Nous apprenons ainsi que le christianisme touche aux plus petits détails de la vie de tous les jours, et que la saine doctrine conduira à une vie de piété dans toutes les étapes et les relations de notre chemin sur la terre. Pour les hommes âgés, la piété se manifestera dans la sobriété des pensées, la gravité du comportement, la sagesse dans les paroles et les actions, et le fait d'être saint dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Les femmes âgées doivent être marquées par un comportement qui convient à celles qui ont affaire aux choses saintes. En raison de leur âge et de leur expérience de la vie, elles auront probablement une grande familiarité avec les autres. Qu'elles soient attentives à ce qu'une telle connaissance ne devienne pas une occasion pour la médisance. Leur âge et leur infirmité peuvent rendre nécessaire l'usage d'un stimulant, mais qu'elles soient attentives à ne pas devenir esclaves de beaucoup de vin. En raison de leur âge et de leur expérience, elles devraient être capables d'enseigner ce qui est bon et juste, et ainsi, d'une manière spéciale, d'instruire les plus jeunes femmes. Les plus jeunes femmes devraient être attachées à leurs maris et à leurs enfants, sages ou sobres dans leurs paroles et dans leurs actions, pures dans leur tenue et leur conduite, diligentes dans les tâches de la maison, bonnes, soumises à leurs maris, de sorte que rien dans leur vie ne donne occasion pour que la parole de Dieu soit tournée en mépris. Les jeunes hommes doivent être sobres dans leurs paroles et dans leurs voix. Tite lui-même, étant un jeune homme, est spécialement exhorté à agir d'une manière qui soit un modèle pour les jeunes hommes, à la fois dans les bonnes œuvres et dans la doctrine. Nous apprenons encore combien la vie et la doctrine sont intimement liées. D'un côté, si la vie n'est pas bonne, l'enseignement, aussi correct qu'il soit, n'aura pas de puissance. D'un autre côté, gardons-nous de nous satisfaire d'une bonne vie alors que nous sommes indifférents au saint enseignement. Quant à la doctrine, nous devons éviter toute perversion qui tendrait à corrompre la vérité. En outre, dans l'enseignement, nous devons maintenir la gravité et ainsi éviter toute extravagance qui apporterait du mépris sur l'enseignement. De plus, nous devons veiller à user de paroles saines et nous garder d'employer des mots ou des expressions courantes dans le monde, mais entièrement hors de place dans les choses divines qui amèneraient l'enseignement à être condamné. Si nous agissons à la lumière de ces exhortations, ceux qui cherchent à s'opposer se tairont, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Les esclaves chrétiens devraient être marqués par l'obéissance et accomplir leurs devoirs d'une manière qui les recommanderait auprès de leur maître terrestre. Cela implique qu'ils se gardent de contredire leur maître ou de les dépouiller, mais au contraire qu'ils montrent toute fidélité. Ainsi, tout en agissant justement vis-à-vis de leur maître terrestre, ils orneront en toute chose l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Dans les derniers versets du chapitre, nous avons un résumé frappant des doctrines du christianisme qui conduisent à la vie de piété. Le monde peut, dans une mesure, reconnaître et apprécier la bonne conduite à laquelle nous sommes exhortés dans la première partie du chapitre, mais il ne connaît rien de l'opération de la grâce dans les âmes des croyants dont l'apôtre parle dans la dernière partie. La religion actuelle du jour est prête à prêcher la moralité et une bonne conduite, mais elle ignore la grâce de Dieu qui est, seule, la véritable source de toute piété. Combien il est donc important d'avoir nos âmes établies dans la grâce de Dieu, sans laquelle la moralité ne produira aucune bénédiction durable. Versets 11 à 15. Citation de l'Écriture. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Annonce ces choses, exhorte et reprend, avec toute autorité de commander. Que personne ne te méprise. Fin de citation. L'apôtre place maintenant devant nous la grâce de Dieu comme le fondement de toute notre bénédiction chrétienne. Nous apprenons que la grâce nous apporte la bénédiction, nous enseigne comment vivre dans le présent siècle et nous donne d'attendre la bienheureuse espérance future. Étant donné que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, nous n'aurions guère été étonnés si le jugement de Dieu était apparu. Mais la chose incroyable est que la première apparition du Seigneur Jésus a apporté la grâce de Dieu dans le monde. Car, alors que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Nous lisons encore, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. » Jean 1, verset 17 et 3, verset 17. En outre, si tout le monde est coupable devant Dieu, cette grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes. En ouvrant le Nouveau Testament, nous sommes face à face avec la vérité bénie que le temps était venu, dans l'histoire de ce monde ruiné et coupable, où Dieu est intervenu pour le salut des hommes par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous lisons « Tu appelleras son nom Jésus, c'est-à-dire Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Matthieu 1, verset 21. Afin que ce salut soit accessible à tous, le Christ Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, versets 4 à 6. Et quand il a été élevé dans la gloire, le message est encore qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car aussi, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Acte 4, verset 12. Ainsi, de la naissance de Christ jusqu'à son ascension, nous voyons présenter en lui la grâce de Dieu qui apporte le salut pour tous les hommes. Si la grâce de Dieu apporte le salut pour tous les hommes, elle enseigne également ceux qui reçoivent la bénédiction par la foi en Christ à vivre une vie en conséquence. Donc, loin de nous conduire à être indifférents à notre marche, la grâce mènera non seulement au reniement de l'impiété et des convoitises mondaines, mais à une vie marquée par la sobriété quant à nous-mêmes, par la justice dans nos relations avec les autres, par la piété en rapport avec Dieu. Vivant ainsi, le chrétien sera un vrai témoin de la grâce de Dieu dans le cours actuel des choses qui, hélas, est marqué par l'impiété et la convoitise. La sobriété nous délivrera d'être enflés de notre propre importance et nous conduira à une estimation sobre de nous-mêmes dans la présence de Dieu. Si nous vivons justement, nous reconnaîtrons les droits de tous. Si nous vivons pieusement, nous agirons dans un esprit de révérence qui marche en secret devant Dieu et dans la confiance de la foi qui apporte tout à Dieu. C'est tout le contraire de la bigoterie qui conduit à revêtir un habit religieux, à faire de longues prières en public et à une simple apparence extérieure afin d'acquérir une réputation religieuse devant les hommes. Caractérisé par la sobriété, la justice et la piété, les croyants seront préservés de toute excentricité et auront une vie bien équilibrée, ce qui convient au témoin de la grâce de Dieu. En outre, la grâce commencée sur la terre conduira à la gloire. Elle nous donne une espérance bénie au-delà de ce présent siècle et de toute sa violence et sa corruption, qui sera introduite par l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. À sa première apparition, nous avons vu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. À sa seconde apparition, nous verrons la gloire de Christ. À sa première apparition, dans son humble grâce, il est devenu un étranger sans domicile, dans sa propre création, avec aucun lieu où reposer sa tête. À sa seconde apparition, il sera manifesté en gloire comme le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent. 1 Timothée 6, versets 14 et 15. Quand il paraîtra en gloire, les croyants seront avec lui et comme lui. Si la grâce fait de nous des étrangers dans ce monde, elle fait aussi que nous sommes chez nous dans la gloire du monde à venir. Cette personne bénie, qui est en effet le grand Dieu et pourtant aussi notre Sauveur, l'homme Christ Jésus, qui viendra en gloire pour s'occuper de tous les méchants en jugement, est celle dont les croyants peuvent dire « Il s'est donné lui-même pour nous, pour nous racheter de toute iniquité, pour se purifier pour lui-même, un peuple exclusivement à lui, zélé pour les bonnes œuvres, qui marqueront la vie de piété à laquelle la grâce conduit. Il a donc acquis des droits sur nous, des droits d'amour, afin que nous soyons pour son plaisir. Christ est mort pour nous, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui pour nous est mort et a été ressuscité. » 2 Corinthiens 5, verset 15. Personne n'a de tel droit sur nous comme Christ, car, comme quelqu'un a dit, qui, dans ce monde, le plus proche ou le plus cher, s'est-il déjà donné pour vous? Vivre pour son plaisir à lui nous affranchira de toute iniquité. L'apôtre a déjà exhorté Tite à annoncer les choses qui conviennent au saint enseignement, et maintenant encore il l'instruit non seulement à annoncer ces choses et ainsi à les exposer, mais à exhorter ses auditeurs à les pratiquer et, si nécessaire, à reprendre tout ce qui s'y opposerait. Il ne devait pas être empêché par quelqu'un qui chercherait à verser du mépris sur lui parce qu'il était jeune.